je fus rapporté du Sénégal à l'âge de 2 ans par Monsieur le Chevalier de B, qui en était gouverneur. Il eut pitié de moi. Un jour qu'il voyait embarquer des esclaves sur un bâtiment négrier qui allait bientôt quitter le port. Ma mère était morte et on m'emportait dans le vaisseau, malgré mes cris. Monsieur de B m'acheta et à son arrivée en France, il me donna à Madame la Maréchale de B, sa tante, la personne la plus aimable de son temps et celle qui sut réunir aux qualités les plus élevées la bonté la plus touchante. Me sauver de l'esclavage, me choisir pour bienfaitrice Madame de B, c'était me donner 2 fois la vie. Je fus ingrate envers la Providence en n'étant point heureuse. Et cependant, le bonheur résulte-t-il toujours de ces dons de l'intelligence ?
Dans l'ombre des lumières, la construction de la race. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Diffy Mariani.
Dans l'histoire de la race, il y a toujours des visions parce qu'il n'existe objectivement en nature rien qui corresponde à la race. On peut toujours construire les différences sur la base du critère qu'on prend comme critère fondamental.
Sylvia Sébastiani.
C'est pourquoi on dit aujourd'hui les races humaines n'existent pas. Si on prend comme critère les couleurs de la peau, on crée certains groupes humains. Si on prend la chronologie, on crée d'autres groupes humains. Si on prend l'ADN, on crée d'autres groupes humains. Si on prend les empreintes digitales, on crée encore d'autres groupes humains qui ne correspondent pas entre eux. Donc, c'est absurde d'imaginer qu'il y a une division fixe. Ce qui se passe au XVIIIe siècle, c'est qu'on commence à théoriser la race de façon plus théorique. On commence à définir la race, mais ces définitions sont très instables également. Et il y a des définitions qui se superposent, qui sont en concurrence. Et cela, ça fait partie du débat et de la mise en question de l'homme des Lumières. En lien avec l'esclavage quand même, parce qu'on est dans un moment où... Et ça, c'est... une question que je pense que les historiens des Lumières doivent prendre en compte, ce n'est plus possible de travailler, d'imaginer les Lumières comme un mouvement unique et comme un mouvement voué à l'égalité ou au contraire comme un mouvement raciste. Ça n'a aucun sens. C'est un mouvement qui est contemporain au boom de la traite et de l'esclavage et dont il s'occupe. C'est totalement absurde imaginer que l'un des choses majeures de la période n'intéresse pas les philosophes. Évidemment, même quand ils ne parlent pas directement de l'esclavage, les mots commerce sont les mots clés du XVIIIe siècle.
J'arrivais jusqu'à l'âge de 12 ans sans avoir eu l'idée qu'on pouvait être heureuse autrement que je ne l'étais. Je n'étais pas fâchée d'être une négresse. On me disait que j'étais charmante. D'ailleurs, rien ne m'avertissait que ce fût un désavantage. Je ne voyais presque pas d'autres enfants. Un seul était mon ami, et ma couleur noire ne l'empêchait pas de m'aimer.
Alors l'histoire d'Ourika, qui renvoie à une histoire réelle qui eut lieu, elle, avant la Révolution, dans les années 1780.
Sarga Moussa.
À ce moment-là, le chevalier de Boufflay avait été envoyé comme gouverneur du Sénégal pendant plusieurs années. Et c'est au retour de son premier voyage du Sénégal en 1786 qu'il a ramené une petite captive, comme il dit dans l'une de ses lettres. Et cette petite captive s'appelait précisément Ourika. Elle a été donnée à sa tante. Donc, pour comprendre, si l'on veut, la nouvelle de Claire de Duras, il faut savoir qu'il y a cette histoire réelle hein, d'une petite fille amenée à l'âge de 2 ans, puis élevée dans un milieu aristocratique parisien et morte, en revanche, jeune, à 16 ans, de tuberculose. Ce que va faire Claire de Duras, c'est qu'elle ne va pas se contenter, bien entendu, de raconter cette histoire. Elle va en faire une fiction, elle va donner la parole à cette jeune femme, à Ourika. Donc rien que cela est un élément, évidemment, absolument majeur, littérairement. Elle fait parler une esclave, une ancienne esclave, et puis elle indique que cette esclave, cette ancienne esclave, a été arrachée littéralement au bateau négrier sur lequel elle se trouvait. Donc voilà la situation de départ.
La question du déni d'humanité opposé aux Noirs,
Jean-Frédéric Schaub,
avec l'idée que ces Noirs n'appartiennent pas exactement à la même humanité que les Européens, c'est pas simplement une image, une représentation, un fantasme ou un slogan. Il faut bien comprendre que cette déshumanisation des Noirs, elle est aussi accréditée par le sort réservé aux Noirs par les Européens eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que les conditions concrètes qui ont été faites aux Noirs pris dans la traite atlantique sont des conditions d'une telle brutalité, d'une telle violence, d'une telle inhumanité que, en effet, les êtres humains qui sont pris dans ces navires négriers, dans des conditions qui sont inimaginables, pendant des semaines à fond de cale, les uns sur les autres, avec peu de nourriture, aucune hygiène d'aucun type, etc. Ces êtres qui arrivent en Amérique arrivent dans un état de dégradation physique, de dégradation morale, de désorientation, qu'en effet, la légende selon laquelle ces gens ne sont pas des hommes devient vraie, puisqu'on voit arriver une matière humaine profondément traumatisée, abîmée, blessée, dégradée. Et une fois que les hommes sont transformés en zombies, parce que ce ne sont plus des hommes, ou plus pleinement des hommes, ou des hommes dont l'humanité a été tellement dégradée que, au fond, le discours selon lequel ils appartiendraient naturellement à une humanité moindre est en quelque sorte prouvé par le spectacle qu'ils offrent. Eh bien, je pense que ce qu'on a fait aux Africains au XVIIe et au XVIIIe siècle est de cette nature-là.
Les Européens ne connaissaient pas l'Afrique.
Catherine Kokri-Vidrovitch.
Ils débarquent à Ceuta, au Maroc, en 1415. En fait, ils découvrent l'importance, non pas des esclaves, mais l'importance de l'or africain par l'Atlas catalan de 1375, qui est réalisé par un juif majorquin qui a des connaissances des Arabes et qui fait une map monde. Donc, les Portugais découvrent par l'Atlas catalan que cet or vient de ce qui est devenu le Mali, la zone soudanaise. Donc, les Européens apprennent que l'or vient du sud du Sahara, donc il faut aller le chercher. Et c'est le démarrage, effectivement, ça c'est 1375, et les premières expéditions, Ceuta, c'est 1415, et de 1415 à 1488, les Portugais explorent toute la côte occidentale d'Afrique. Ils ne connaissent pas encore l'Amérique. L'Amérique, c'est 1492, donc pendant tout le siècle, ils ne font que du commerce, et ils vont chercher essentiellement de l'or, là où il y en a, sur les côtes africaines, et puis d'autres choses. Et évidemment des esclaves, puisque le monde de l'époque est esclavagiste. Donc c'est là que la traite européenne commence.
Les chrétiens, donc les Portugais, les Anglais, les Français, etc., en Afrique, n'ont pas fait la chasse aux Africains. Ils n'ont pas fait la guerre aux Africains pour, une fois les ayant vaincus à la guerre, leur offrir le marché, soit je t'égorge, soit tu deviens mon esclave. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Les Européens se sont comportés comme des négociants, qui ont acheté de la matière humaine à des autorités africaines qui leur ont vendu des prisonniers, des captifs. Et les chrétiens catholiques ou protestants qui ont lutté contre la traite atlantique, parce qu'il y en a eu, se sont appuyés sur cet argument pour dire autant il est acceptable de réduire en esclavage quelqu'un qu'on a vaincu, autant il est totalement inacceptable d'acheter une personne dont on ne sait pas pourquoi et au titre de quel mécanisme ou de quel accident, elle a été réduite en esclavage. Or ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est que justement, on ne se demande pas comment les gens ont été réduits en esclavage. On les achète en tant que marchandises. Et ça, du point de vue chrétien, c'est une anomalie radicale. Autre anomalie très importante du point de vue chrétien, c'est que dans le système de la plantation aux Amériques, l'enfant à naître de la femme esclave est présumé propriétaire du propriétaire de l'esclave, de la femme esclave. Autrement dit, ça voudrait dire qu'il y a des êtres humains qui sont, si j'ose dire, esclaves in utero, sont naturellement esclaves. Et c'est là que ça coince, évidemment. C'est là que les choses coincent, et que, précisément, parce que ça coince, parce que c'est inadmissible, parce que du point de vue chrétien, ces deux situations sont intolérables, un homme ne peut pas être une marchandise, et un enfant à naître ne peut pas être déjà essentiellement esclave. Ça, c'est pas possible. Eh bien, pour résoudre cette équation, très simple, on va mettre en œuvre toutes sortes de mécanismes idéologiques et politiques permettant d'accréditer l'idée que les Africains ne sont pas pleinement des êtres humains. Et que par conséquent, puisqu'ils ne sont pas pleinement des êtres humains, ou qu'ils n'appartiennent pas à la même humanité que l'humanité dont il est question dans le livre de la Genèse ou dans le Nouveau Testament, eh bien alors, le sort qu'on leur réserve est un sort qui est acceptable du point de vue chrétien. Et donc, on voit bien que, effectivement, la racialisation radicale de l'Africain s'explique en partie par le fait que le statut qu'on impose aux Africains dans le cadre de l'esclavage est juste inadmissible du point de vue chrétien. Donc, il faut trouver quelque chose pour rendre ça admissible. Le mécanisme, c'est leur animalisation.
Au départ, le mot nègre, c'est très simple, c'est la traduction du mot noir en portugais, noir comme couleur.
Aurélia Michel.
Et qui est effectivement utilisé par les Portugais dès le Moyen-Âge, et surtout au XIVe et XVe siècle, lorsqu'ils naviguent sur les côtes africaines, et qu'ils désignent les populations africaines subsahariennes. Ils les appellent les noirs. À partir du moment où ils vont se mettre à faire le commerce des esclaves africains, et encore plus quand ce commerce va concerner les Amériques, les Indes, le mot « negro » va prendre une signification de synonyme d'esclave, c'est-à-dire qu'il va désigner les esclaves africains. Or, ce qui se passe à la fin du XVIe siècle, c'est que aux Indes, dans les Amériques espagnoles ou portugaises, du fait de l'interdiction de l'esclavage des Indiens, il n'y a plus pratiquement que des esclaves africains aux Indes. Autrement dit, le caractère de synonyme va s'aggraver, va s'appuyer. Noir veut dire esclave, aux Indes, c'est très clair. Et c'est justement ce mot-là qui va être utilisé par les autres navires ou nations qui vont s'engager dans le commerce, dans la traite africaine, par la traduction littérale du portugais. Mais lorsqu'on utilise « nègre » ou en anglais « negro » ou « nègre » en flamand, on utilise le mot portugais qui signifie « esclave ». Donc, en quelque sorte, on fige, on cristallise cette métonymie. D'où son caractère péjoratif, évidemment, parce que le statut d'esclave est évidemment dévalorisé. Donc quand on continue à utiliser ce mot, surtout quand on l'utilise à la place de noir, ça signifie encore plus cette assignation à l'esclavage, cette origine esclave, dont en fait on ne peut pas sortir. Voilà ce que dit le locuteur quand il traite, qu'il désigne quelqu'un de nègre.
Il y avait dans le salon de Madame de B un grand paravent de lac. Ce paravent cachait une porte. Mais il s'étendait aussi près d'une des fenêtres. Et entre le paravent et la fenêtre se trouvait une table où je dessinais quelquefois. Un jour, je finissais avec application une miniature. Absorbée par mon travail, j'étais restée longtemps immobile. Et sans doute Madame de B me croyait sortie lorsqu'on annonça une de ses amies. La marquise.
Ourika est derrière un paravent. Le paravent sépare Ourika des deux femmes, des deux interlocutrices, Madame de B et son amie, la marquise, qui ne savent pas qu'Ourika les écoute. Elle parle donc librement.
Pendant que nous sommes seuls, dit la marquise à Madame de B, je veux vous parler d'Ourika. Elle devient charmante, son esprit est tout à fait formé, elle causera comme vous. Elle est pleine de talent, elle est piquante, naturelle. Mais que deviendra-t-elle? Et enfin, qu'en ferez-vous? Hélas, dit Madame de B, cette pensée m'occupe souvent. Et je vous l'avoue toujours avec tristesse. Je l'aime comme si elle était ma fille. Je ferai tout pour la rendre heureuse. Et cependant, lorsque je réfléchis à sa position, je la trouve sans remède. Pauvre Ourika. je la vois seule, pour toujours seule dans la vie. Il me serait impossible de vous peindre l'effet que produisit en moi ce peu de paroles. L'éclair n'est pas plus prompt. Je vis tout. Je me vis négresse, dépendante, méprisée, sans fortune, sans appui, sans un être de mon espèce à qui unir mon sort, jusqu'ici un jouet, un amusement pour ma bienfaitrice. Bientôt rejetée d'un monde où je n'étais pas faite pour être admise.
Voilà la grande affaire d'Aurica, dont Claire de Duras relaie la plainte, ce mal de ma couleur, cette fatalité de la peau noire qui n'est pas laide en soi, mais qui le devient aux yeux d'une société blanche qui est largement, on va dire, raciste. Aurica est une mélancolique. Et la mélancolie, ne l'oublions pas, c'est la bile noire, au sens étymologique. Aurica est une sœur des personnages byroniens et autres, mais elle l'est aussi par sa noirceur de peau qui la rend mélancolique à partir du moment où elle prend conscience de sa différence, perçue comme radicale par une société qui a oublié l'universalisme des Lumières. Et puis, il y a donc une noirceur qui est celle de son âme, mais pas du tout une noirceur morale. Elle est au contraire une pure. Elle est une vierge, elle est une blanche, elle est une innocente. Mais elle est noire par le désespoir qui est le sien, généré par la société dans laquelle elle se trouve.
Alors la caractéristique de la société européenne esclavagiste, c'est celle qui se développe donc à partir du XVIe, XVIIe siècle, c'est l'échelle de ces traites, de ce système productif, du peuplement des îles à sucre ou des îles Caraïbes, qui ont une démographie pratiquement à 80-90% de population esclave, et donc au fond des relations sociales qui sont dominées par l'esclavage et par cette possibilité de la violence et qui sont donc largement incontrôlables. Il y a très peu de stabilité dans cette société. Et donc, à partir de là, on peut comprendre ce mécanisme de surenchère de la violence qui va augmenter dans un temps assez rapide, puisqu'en fait, on peut dire que la traite commence à être importante à la fin du XVIIe et de plus en plus importante, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, pour la France, par exemple.
Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là? C'est aussi les moments où les Européens commencent à se définir comme blancs. Jusqu'à la moitié, on pourrait dire au début du XVIIIe siècle, les Européens se définissent comme chrétiens, comme espagnols, comme français, comme anglais, etc. Mais ils ne se définissent presque jamais comme blancs. Et en revanche, la blancheur devient une couleur, elle aussi. On peut dire que la colonisation de l'Amérique crée la couleur de la race, colore la race, si on veut, parce qu'elle crée des situations aussi dans les colonies où la couleur devient les marqueurs immédiats. Mais il y a aussi des problèmes dans ces sociétés. On commence aussi à avoir des statuts différents. On commence à avoir, j'utilise ces mots entre guillemets, des mulâtres libres. On commence à avoir aussi des esclaves affranchis. On commence à avoir une société beaucoup plus variégée d'un point de vue social. Et les statuts de cette position ne correspondent plus totalement aux couleurs de la peau, à l'aspect chromatique. Et c'est vraiment cette confusion, cette fragilité des sociétés coloniales qui renforce toute la discussion et les débats autour de la question de la couleur. Et donc, la dichotomie noir-blanc devient de plus en plus importante.
Ce qu'on voit très bien à partir de 1750, c'est comment une partie de cette société coloniale se crispe vis-à-vis de l'apparition de ces libres de couleur. Et refusent, au fond, que leur statut de libre leur permette d'accéder aux mêmes privilèges, à la même condition qu'eux-mêmes ou leurs enfants. Et donc, ça n'est pas la majorité hein, des colons, mais une partie d'entre eux, disons, se définissent dans un parti, alors une mouvance politique, on pourrait dire, dit ségrégationniste, qui vise, en fait, à créer des obstacles administratifs, juridiques, politiques, etc., à l'égalité avec les libres de couleur. Et ça n'est pas forcément d'ailleurs tout à fait entendu par le gouvernement en métropole, qui serait plutôt, dans les années 1760-80, favorable à une égalité administrative qui correspond à la modernité politique de l'époque. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces crispations, il y a un mot pour les désigner, et elles ont des effets dans les relations sociales, c'est le préjugé de couleur. Il y a, en fait, un impensé qui est que, dès lors qu'on montre le signe d'une ascendance esclave, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'intégrer la société des libres. La très lente sortie, la très difficile sortie de l'esclavage, hein, tout ce processus très lent de sortie de l'esclavage, qui fait qu'on ne veut pas, on ne peut pas oublier l'origine esclave, l'ascendance esclave, l'expérience esclave. Au fond, dans une société où on peut battre, torturer, tuer, violer, etc., des populations qui ne sont pas couvertes par les interdits, eh bien, ça peut être assez brutal quand tout d'un coup, ces personnes ou leurs descendants deviennent des égaux ou des libres. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ces interdits, ils sont activés. Et au fond, ça renvoie le colon ou sa famille, enfin ces blancs des colonies, dans leur transgression. Ça fait de leurs actes, disons, des actes de transgression, des fautes. Et souvent, la meilleure façon de se protéger de cette réactivation des interdits, c'est d'avoir des pratiques ou des actes qui réassignent l'autre dans son statut d'esclave. C'est toute une mécanique de la violence qui vise à réaffirmer le statut d'ancien esclave ou de descendant d'esclave. D'où cette violence du mot nègre, qui désigne justement ce statut d'esclave, quel que soit le statut réel juridique, c'est-à-dire qu'un nègre, c'est par définition, par nature presque, une personne esclave, quelle que soit aussi, je dirais, sa couleur de peau ou la pigmentation plus ou moins foncée de sa peau. Nègre, c'est vraiment ce geste, ce mot, ce vocable qui réinscrit, rabaisse, remet l'esclave à sa place. Dans une société qui est en fait très mobile, très instable, et où justement les places ne vont pas de soi.
La race est toujours une tentative de fixer des différences, et il est toujours malléable, et c'est sa force. Et au moment qu'on est en colonie, il faut faire avec cette différence. Donc il faut trouver comment garder ces mêmes colonies, comment les défendre. Et pour les défendre, on commence à multiplier aussi des expériences sur l'humanité. On commence aussi à imaginer des ingénieries raciales, déjà dès du XVIIIe siècle, et par exemple à créer des sociétés mixtes, des entre guillemets mulâtres, qui peuvent défendre l'île et être des soldats. Cette idée est de plus en plus importante parce qu'il faut de toute façon imaginer comment défendre et comment s'allier avec une partie de la population. Ça fait partie des constructions. Donc on commence à imaginer, est-ce que c'est possible de construire une race moins dangereuse que les Africains? On commence à distinguer les Africains qui viennent d'Afrique par rapport aux esclaves qui naissent dans les colonies, qu'ils disent qu'ils sont bien mieux, etc. Mais pourquoi? Et ça fait partie de la contradiction de la race.
Le moment où la couleur blanche va désigner un groupe social, une catégorie sociale, c'est effectivement le milieu du XVIIIe siècle dans ces sociétés de plantation. C'est-à-dire quand des blancs, je parlais tout à l'heure du parti ségrégationniste, des individus se définissent par rapport à ceux qui sont certes libres, certes chrétiens, certes peut-être de parents d'ascendance européenne, mais qui ne sont pas blancs. Ce camp des blancs, il continue à maintenir, à alimenter une frontière entre eux et les autres. Derrière cette frontière, toutes les variations, les couleurs, les signes, les stigmates sont possibles. Et cette frontière, elle désigne qui ? Ceux qui appartiennent à la société, ceux qui sont membres de la société, ceux pour qui les règles de droit s'appliquent, ceux pour qui la justice royale ou ensuite républicaine s'applique. Voilà, c'est ça la frontière. Ça a été symptomatique, disons, de l'apparition de ce statut, un certificat qui est fondé sur l'ascendance, la démonstration de ses ascendants, qui, en fait, reprend une pratique ibérique du XVIe siècle, au moment de la Reconquête, et qui consiste à faire la démonstration de son ascendance. Alors avant, c'était pour le XVIe siècle, c'était chrétienne, et pour le XVIIIe, ça va devenir effectivement la blancheur qui va permettre à celui qui en fait la demande d'être considéré comme blanc, réputé blanc. Donc si on voit apparaître ces démarches juridiques, c'est parce qu'il y a un enjeu autour du fait de se déclarer blanc ou d'être réputé blanc. Et c'est un enjeu qui apparaît, oui, dans la deuxième moitié du XVIIIe. Ce qu'il s'agit de défendre, c'est la société des blancs. C'est le statut de blanc. Et notamment, dans ce moment très particulier, de la construction de l'égalité. C'est-à-dire de l'égalité révolutionnaire, qu'elle soit des États-Unis ou de la France républicaine. L'impossibilité pour ces sociétés coloniales de penser l'égalité avec les affranchis, les descendants d'affranchis. Voilà. Et donc, effectivement, il y a bien quelque chose à ce moment-là, un impensé d'ailleurs, qui se cristallise et qui est le terreau du racisme. C'est là qu'on puise, en fait, cette violence, ces préjugés, ces formes de discrimination, qu'on les reproduit.
L'espoir sitôt détruit que m'avait inspiré la Révolution n'avait point changé la situation de mon âme. Toujours mécontente de mon sort, mes chagrins n'étaient adoucis que par la confiance et les bontés de Madame de B. Quelquefois, au milieu de ces conversations politiques dont elle ne pouvait réussir à calmer l'aigreur, elle me regardait tristement. Ce regard était un baume pour mon cœur. Il semblait me dire « Ourika, vous seule m'entendez ». On commençait à parler de la liberté des nègres. Il était impossible que cette question ne me touchât pas vivement. C'était une illusion que j'aimais encore à me faire, qu'ailleurs, du moins, j'avais des semblables. Comme ils étaient malheureux, je les croyais bons, et je m'intéressais à leur sort. Hélas, je fus promptement détrompé. Les massacres de Saint-Domingue me causèrent une douleur nouvelle et déchirante. Jusqu'ici, je m'étais affligé d'appartenir à une race proscrite. Maintenant, j'avais honte d'appartenir à une race de barbares et d'assassins.
Maintenant, j'avais honte d'appartenir à une race de barbares et d'assassins. Vous voyez, c'est incroyable de voir jusqu'où va l'identification de Ourika au point de vue blanc, au regard blanc dans lequel elle évolue. Le bon noir, c'est au fond celui qui ne se révolte pas. Donc ceci est véritablement très représentatif d'un certain point de vue, réformateur, éclairé si l'on veut, mais avec toutes les limites que nous pouvons voir aujourd'hui, avec le temps ayant passé à ce point de vue éclairé. Beaucoup de gens, y compris de philosophes, ne pensaient pas qu'il fallait abolir l'esclavage, mais pensaient qu'il fallait dénoncer les abus de l'esclavage. Autrement dit, au bon nègre, il fallait que réponde un bon maître. S'il y avait un bon maître, il y aurait un bon nègre, et ainsi tout irait mieux. Voilà, donc il y a toute une série de textes, de fictions qui mettent en scène cette situation. Il y a des penseurs de l'époque, comme Condorcet, par exemple, qui produit un des textes les plus radicaux, les plus extraordinaires, avec ses réflexions sur l'esclavage des nègres, ça date de 1781, réédité en 88, c'est très signifiant, c'est-à-dire au moment où se crée la Société des Amis des Noirs, avec Brissot et d'autres. Eh bien, ce qu'il faut signaler, c'est que même le plus radical de ces penseurs, Condorcet, dans sa radicalité, envisage, disons, une progressivité dans l'abolition. Il n'envisage pas du tout une abolition immédiate, et il envisage aussi qu'il faudrait dédommager les planteurs. Donc, ça se prépare, cette conscience de l'injustice, finalement, de l'esclavage, dès avant la Révolution. On finit par comprendre que, enfin, comment c'est possible, n'est-ce pas, de penser l'égalité tout en pensant l'esclavage.
Ngai babenga kangai kumbai, balobaka ngai mabeo, kasi eloko yo bolingo.
Ezali pona kito kote. Gai na yo to we la ninye mama. Gai na yo famite o moningae. To botama mokolomo kote. Ya ya. Etoile yang gai na yo eke senye. Na sala ninye nga mwana mabetio. Nyongo ya nani na defa na kokata kofuta. Na bo mango nanie na fami na bino. Ah, nga mwana mama na kokamo. Nyongo na koyemba.
Si je devais réfléchir à ce que les Lumières ont légué aux sciences humaines et sociales d'aujourd'hui, la première réponse serait, avec Voltaire, des doutes sur l'homme. Et doutes sur l'homme dans le sens qu'on met l'homme en question. Donc la question de l'homme, c'est en premier lieu une mise en question de l'homme. Ces moments où la lutte entre pro-esclavagistes et anti-esclavagistes devient plus importante, c'est le moment où les pro-esclavagistes utilisent l'humanisation des grands singes pour l'opposer aux Africains. C'est-à-dire que, c'est mon hypothèse, qu'au moment qu'on abolit la frontière entre l'animalité et l'humanité, on grandit la frontière à l'intérieur de l'humanité. Et les cas les plus éclatants dans ce sens, c'est l'arrivée d'une chimpanzé femelle en 1738 qui est amenée à travers les réseaux de l'esclavage. Ce sont les mêmes réseaux qui vendent et les esclaves et les grands singes. Son propriétaire est Henry Flower, qui est un capitaine esclavagiste qui fait 4 voyages dans très peu de temps et qui cherche à amener plusieurs orang-outans vivants, mais la seule qui arrive vivante, c'est cette orang-outan chimpanzé qui sera appelée Madame Chimpanzé. C'est-à-dire chimpanzé expliqué comme mockman, c'est-à-dire parodie d'homme. La parodie de l'être humain est aussi une caractéristique qui est immédiatement soulignée de cette position des frontières liminales entre l'être humain et l'animalité. Et c'est intéressant parce que dans beaucoup de langues européennes aujourd'hui, encore par exemple « singer » signifie être une parodie d'homme. En italien, on peut utiliser « scimmiottare », en anglais « to ape ». C'est exactement ces questions de cette parodie et de cette proximité. Au moment que ces grands singes sont exposés, Madame Chimpanzé est exposée dans les coffee house, elle devient une célébrité parce qu'elle boit du thé. En 1738, le thé est encore un produit de luxe. Ce n'est pas du tout un produit populaire, c'est un produit d'une société avancée et riche. Et le fait d'être raffiguré avec une tasse de porcelaine qui vient de Chine signifie une humanisation et une féminisation totale de cet animal qui attire beaucoup de naturalistes, des médecins de l'époque, ainsi que des rois et des nobles, donc une multiplication d'audiences différentes. Chaque journal de Londres, chaque jour, écrit un paragraphe sur Madame Chimpanzé, comment elle se comporte vis-à-vis des enfants, comment elle se comporte vis-à-vis des spectateurs qui la regardent. Elle fait une véritable ascension sociale. Elle change de coffee house, elle va dans une coffee house plus importante. Elle est habillée en soie. Elle représente toutes les caractéristiques de la féminité. Elle est modeste, elle couvre son sexe, elle a des bonnes manières de table, elle boit du thé, etc. Parmi les personnes qui attirent, il y a aussi Hans Sloane, qui est le président de la Royal Society, qui succède à Newton en 1727, qui est aussi celui qui fait l'autopsie de Madame Chimpanzé. Parce qu'après 5 mois qu'elle vit à Londres, elle meurt. Elle est morte pour une overdose de thé, ce qui peut nous faire sourire, mais elle meurt et tous les journaux décrivent sa mort en parallèle à la mort d'un Africain. Il utilise « negro » comme terme pour dire qu'il se comporte exactement de la même façon. Et dans l'autopsie, ce que Hans Sloane et les médecins de la reine Rambi disent, c'est qu'elle est totalement de l'espèce humaine, est identique. Cela est immédiatement utilisé par les pro-esclavagistes dans les moments des débats plus importants sur l'esclavage. Donc l'humanisation du primate est utilisée pour animaliser une partie de l'humanité. Madame chimpanzé qui boit du thé, qui représente grand singe très éduqué, est opposée immédiatement à l'esclave qui mange par terre, qui n'utilise pas ni la fourchette ni les couteaux et qui n'est pas du tout ni sensible ni capable de manières raffinées. C'est pourquoi je dis qu'au moment qu'on abolit la frontière entre animalité et humanité, on grandit la frontière à l'intérieur de l'humanité. Cela n'est pas une règle générale. Darwin est anti-esclavagiste et évolutionniste, évidemment. Mais au XVIIIe siècle, cet argument est utilisé souvent dans ces termes. Les anti-esclavagistes, qu'est-ce qu'ils font? Réanimalisent l'orang-outan, réanimalisent l'animal pour pouvoir réhumaniser les Africains. C'est-à-dire, ils commencent à dire non, ça c'est un animal, n'a rien à voir avec tous ces caractères humains que des philosophes ont voulu souligner ou des médecins ont souligné. Ils sont des animaux et en revanche, les esclaves ont été animalisés par l'homme blanc qui l'a rendu esclave. Et le fait qu'ils mangent par terre, c'est exactement le fait qu'ils sont obligés à le faire. Ce n'est pas leur nature, ce n'est pas leur différence.
Voltaire, Traité de métaphysique, 1734.
Après avoir passé quelque temps parmi cette espèce, je passe dans les régions maritimes des Indes orientales. Je suis surpris de ce que je vois. Les éléphants, les lions, les singes, les perroquets n'y sont pas tout à fait les mêmes que dans la Caffrerie. Mais l'homme y paraît absolument différent. Ils sont d'un beau jaune. N'ont point de laine, leur tête est couverte de grands crins noirs. Ils paraissent avoir sur toutes les choses des idées contraires à celles des nègres. Je suis donc forcé de changer ma définition et de ranger la nature humaine sous deux espèces, la jaune avec des crins et la noire avec de la laine. Mais à Batavia, Goa et Surat, je vois une grande multitude d'Européens qui sont blancs et qui n'ont ni crins ni laine, mais des cheveux blonds fort déliés avec de la barbe au menton. Il me semble alors que je suis assez bien fondé à croire qu'il en est des hommes comme des arbres. Que les poiriers, les sapins, les chênes et les abricotiers ne viennent point d'un même arbre. Et que les blancs barbus, les nègres portant laine, les jaunes portant crin et les hommes sans barbe ne viennent pas du même homme.
Les naturalistes sont sans doute ceux qui commencent à utiliser les termes race dans une signification scientifique, on peut dire, et qui commencent à classer l'humanité à l'intérieur de ces mondes naturels. Pendant les Lumières, on a un double mouvement. D'un côté, on naturalise l'être humain, c'est-à-dire on le met à l'intérieur des histoires naturelles. Jusqu'alors, l'homme était à part des histoires naturelles. On ne classait jamais l'homme avec la flore, avec la faune. En revanche, avec Buffon et avec Linné, qui sont les deux antagonistes des Lumières avec des méthodes très différentes, l'un taxinomique, Linné, et l'autre, on peut dire, généalogique, basé sur l'histoire Buffon, avec eux, l'homme, pour la première fois, est classé avec le reste de la nature. Il divise l'homme en deux espèces. L'un est l'homo sapiens, et donc il invente ces mots d'homo sapiens pour caractériser l'humanité, l'homme diurne, et l'autre est le troglodyte, et l'homme nocturne, ou orang-outan. Buffon, dans son histoire naturelle, qu'il publie en 36 volumes entre 1749 et sa mort en 1788, il critique de façon très importante cet voisinage entre les grands singes et l'être humain. Et donc, il remet une frontière importante. Mais, de facto, il les rapproche. L'homme sauvage est très rapproché de l'animal, même quand on met une frontière entre les deux. Dans Buffon, les races sont toujours réversibles parce que son idée, c'est que l'homme blanc, c'est le prototype de la race de l'espèce humaine Et donc, les races se forment par dégénération ou par altération. Ce sont des termes toujours utilisés par Buffon. Mais c'est clair que, de plus en plus, la question du corps humain devient importante. C'est-à-dire, la question des classifications parallèles avec le reste de la nature est fondée, en premier lieu, sur le corps, sur la couleur, sur la morphologie. Et donc, c'était ici aussi que la question des frontières de l'humanité se pose de plus en plus. C'est une frontière entre les genres, c'est une frontière entre l'homme et l'animal, c'est une frontière entre l'homme civilisé et les sauvages. Et toutes ces frontières caractérisent les discours de Lumière. On peut dire qu'on multiplie les degrés d'humanité, on multiplie les degrés des civilisations des êtres humains, et donc on divise l'humanité à son intérieur en races différentes. Et le mot « race », c'est Buffon qui lui donne tout son sens au XVIIIe siècle. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est absolument nouveau parce que le mot « race » existe déjà avant et signifie pendant tout l'âge moderne. Les premières significations dans tous les dictionnaires, c'est « lignage ». L'autre signification est utilisée surtout pour parler de l'élevage des races des chiens ou des races des chevaux. À partir surtout des classifications des Lumières, race commence à avoir une signification différente comme une définition des groupes humains différentes.
Le contexte de maîtrise du vivant, de rationalisation du travail et de la production, le contexte de nouveaux investissements productifs qui ont cours donc à cette époque, fait qu'on va effectivement mobiliser des savoirs, des discours, des registres qui viennent aussi de la science. Je dis aussi, mais en fait, c'est le même monde, c'est le même vocabulaire, les mêmes grilles, les mêmes paradigmes. Donc c'est logique que ces projets économiques empruntent du vocabulaire, une grille de lecture, des paradigmes qui viennent du monde savant. C'est un monde partagé, en fait. Linné et Buffon sont eux-mêmes imprégnés de la société coloniale esclavagiste. Ils la connaissent plus ou moins directement. Ils partagent avec ces coloniaux le vocabulaire, les expériences. La littérature est la même, la culture est la même. Donc eux-mêmes, quand ils font leur classification ou quand d'autres savants produisent des discours, ils sont eux-mêmes imprégnés de ces préjugés. Et donc, il est logique de ce fait que, y compris ces questions économiques, soient saisies par ce type de discours, par ce type de recherche, et que l'on cherche la raison, la rationalité des rapports socio-économiques, des rapports de production, de la colonisation de tel ou tel endroit, etc.
Ma figure me faisait horreur. Je n'osais plus me regarder dans une glace. Lorsque mes yeux se portaient sur mes mains noires, je croyais voir celles d'un singe. Je m'exagérais ma laideur, et cette couleur me paraissait comme le signe de ma réprobation. C'est elle qui me séparait de tous les êtres de mon espèce, qui me condamnait à être seule, toujours seule, jamais aimée. J'eus un moment l'idée de demander à Madame de B de me renvoyer dans mon pays. Mais là encore, j'aurais été isolée. Qui m'aurait entendue? Qui m'aurait comprise? Hélas, je n'appartenais plus à personne. J'étais étrangère à la race humaine tout entière.
Je croyais voir celle d'un singe. Celle, donc, c'est les mains d'Ourika. Je croyais voir celle d'un singe. Et là, donc, je mets l'accent non pas sur le singe, sur les mains, mais sur le verbe « croire », une prise de distance. C'est un verbe qui indique, au fond, la possibilité d'une illusion, la possibilité de se tromper. L'illusion, hein, c'est un mot qui traverse évidemment toute la nouvelle. Toute sa vie est la conscience d'une illusion après l'autre qui tombe, hein, qui s'effondre. De même que la Révolution française était une illusion, elle n'a pas tenu ses promesses, elle n'a pas libéré les Noirs, hein, puisque Bonaparte a rétabli l'esclavage. Bon. Donc, je croyais voir celle d'un singe indique le point de vue adulte, distinct et autocritique sur l'enfant qui avait adopté lui-même ce point de vue raciste, négrophobe, qui était celui de la société blanche de son temps. Et puis surtout, c'est elle qui comprend quelque chose. Mais la société dans laquelle elle vit, elle ne comprend rien. Rien du tout. Elle n'est pas initiée du tout. C'est ça le problème. D'où l'exergue de Byron. This is solitude. Peut-on vivre seul dans la société? C'est très difficile. l'une des autres voies de salut envisagée, c'est le retour dans la colonie. Et là, elle comprend, parce qu'elle est suprêmement intelligente, comme Claire de Duras, elle comprend immédiatement qu'en fait, elle serait isolée là aussi. Et c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste.
C'est avec l'inné qu'on divise l'humanité dans les quatre couleurs qui sont devenues les quatre couleurs aussi aujourd'hui. On peut penser à Picasso, les quatre parties du monde, les noirs, les jaunes, les rouges et les blancs. Et jusqu'à là, les Chinois ou les Asiatiques ne sont jamais décrits comme jaunes. Et non plus l'inné dans sa première édition les décrit comme jaunes. Ils sont fuscus, c'est-à-dire foncés. En 1735. En 1758, devient jaune, donc une couleur primaire différente. Et les Amérindiennes sont plutôt rougeâtres avant, ne sont jamais rouges. C'est-à-dire que les couleurs se stabilisent aussi pour ces processus de colonisation qui attendent son acmé à la moitié du XVIIIe siècle. Et ça, ce n'est pas un hasard. Il faut aussi dire que c'est le moment où tout le monde s'occupe des couleurs. On travaille sur l'optique, on travaille sur les couleurs des tissus de coton. À ce moment, il y a vraiment les booms des tissus colorés. Donc l'industrie s'occupe de la question des couleurs et l'inné lui-même cherche et trouve des plantes pour colorer les tissus. Cela signifie que la science n'est jamais neutre et jamais séparée du reste de la société. Et c'est le moment aussi que les termes pigmentation passe de l'histoire de l'art à l'anatomie. Donc, des arts plastiques, ils deviennent l'un des termes basiques et fondamentaux de la description de la couleur de la peau humaine en anatomie. Tout ça pour dire que la question de la couleur devient de plus en plus importante pour une série de concomitances et de causes différentes, mais qui colorent finalement aussi les races humaines.
On voit aussi apparaître, tant chez Linné que chez Buffon, que chez Blumenbach ou d'autres, des figures des hommes sauvages, alors qui ont des noms différents, Homo sylvestris, Homo nocturnus, Homo ferus, qui sont ces espèces de chaînons manquants permettant de placer l'humain au sein de la nature.
Magali Bessonne.
Et pourquoi ils sont importants? Parce qu'ils sont justement à la frontière de l'humanité. Donc on sait qu'après eux, on est certain d'être dans l'humanité. Et encore une fois, c'est ce que cherchent les producteurs de ce type de discours, c'est-à-dire tous les scientifiques de l'histoire naturelle de l'humanité. Donc on est certain d'être du côté de l'humanité une fois qu'on est passé. Et donc on est certain d'être capable de dominer la nature. Et l'idée est à la fois de placer l'homme dans la nature et de comprendre les mécanismes de domination de la nature. L'importance de se rendre comme maître et possesseur de la nature et pas simplement au service de la nature. Donc la construction théorique de l'invention du sauvage, elle naît d'un mouvement de définition de soi et d'un mouvement de différenciation et de hiérarchisation qui permet de mettre l'humain dans la nature et de justifier que ces humains civilisés, formes parfaites de l'humanité, sont légitimes à coloniser et donc civiliser les formes inférieures. Et le sauvage, et c'est le dernier point important de l'invention de la figure du sauvage, le sauvage existe aussi pour pouvoir construire un discours de justification. Nous sommes tous humains, mais il y a des humains qui sont plus avancés que d'autres sur la voie du progrès. Donc, il y a des humains qu'on va pouvoir domestiquer, qu'on va pouvoir civiliser, qu'on va pouvoir coloniser. Et les effets de racialisation, là, sont essentiels dans cet effort de justification de la colonisation. Au XVIIIe siècle, c'est-à-dire vraiment le moment où on le voit dans énormément de récits, d'ordre très différents d'ailleurs. Les récits de voyages mis en ordre, dans les recueils, dans les collections qui se constituent, les romans, les essais, les traités, les pièces de théâtre, hein, l'Ingénu de Voltaire, par exemple, le voyage de Bougainville, le traité des deux Indes. Enfin, on le voit dans des textes, justement, des Lumières, et l'encyclopédie, bien sûr, d'ordre théorique, d'ordre littéraire, où on voit vraiment le discours descriptif et le discours normatif qui se rejoignent pour produire, avec le sauvage, la racialisation de l'humanité. Et là, on est vraiment dans les Lumières. On est 18e.
Dans les Lumières, et Voltaire est un exemple très parlant dans ce sens, il y a toujours une tension entre une vision universaliste et une vision hiérarchique de l'humanité. Et les deux vont ensemble. Donc, ils sont universalistes sur certains points. Et ce n'est pas un hasard qu'on commence à parler des droits de l'homme avec les Lumières. Donc, il y a une vision des droits universels, même si après, il faut dire que ce n'est pas toute l'humanité. Et les femmes ne sont pas considérées dans ces droits. Et aussi, les esclaves ne sont pas considérés dans ces droits. Donc, évidemment, il y a aussi des limites à cet universalisme, mais il y a toujours une vision universaliste avec l'idée qu'avec les temps, on peut arriver à cette égalité qui n'existe pas en ce moment, mais c'est avec les temps, c'est pas dans la situation présente. Et de l'autre côté, une vision hiérarchique qui existe et qui est toujours en tension. Ce qui caractérise les Lumières est cette tension entre hiérarchie et universalisme. Et c'est, je dirais, la caractéristique même des Lumières, que les Lumières peuvent amener à la racialisation de l'humanité ou non. Les deux possibilités sont ouvertes. Ils débattent de ces questions. Donc, il y a une définition majeure de la race, surtout avec Buffon, et après avec Kant, ça devient encore plus radical, parce qu'on commence à réfléchir sur la question de l'héritage. On dirait aujourd'hui biologique, biologique n'existe pas comme terme, mais c'est pour se comprendre, des caractères qui deviennent de plus en plus stabilisés, comme caractère fixe qui caractérise les êtres humains. Donc on stabilise de plus en plus, mais les débats restent ouverts et les positions restent multiples.
Beneba El Boudo, mars 2022.
Alors, j'achète une maison avec un droit de passage. Donc, j'ai le même droit de passage que ma voisine. Donc, on a le même portail. Le jour, elle a su que c'était une Africaine. Ils ont bloqué, on n'a pas eu accès à la maison. Du fait que je sois noire, ça l'a gênée. Donc, elle m'a bloqué mon passage à moi. Et le jour du déménagement, ils se sont garés devant le portail, nous obligeant à transporter tous nos bagages pour rentrer chez nous. On n'avait pas accès à notre maison par notre voiture. Et l'autre jour, j'avais fait venir des personnes pour travailler chez moi. Et là, je lui demande de déplacer sa voiture pour que les engins puissent avoir accès au jardin. Et là, elle commence à m'insulter. Retourne chez toi, c'est pas ta place ici, retourne dans la jungle, mange tes bananes, guenolles, babouins, tout ce qui représente un change. Devant des témoins, et de toute façon elle va faire une pétition parce qu'il n'y a pas les gens de ma race dans cet environnement, donc je ne peux pas rester ici. Mais honnêtement, aujourd'hui, si on me dit que... je peux avoir confiance que le racisme n'existe pas en France. Et je dirais, c'est faux. Je crois que ça existe. Les gens le voient. Les gens le savent. Et les gens ferment les yeux. Ou les gens font semblant de ne pas voir. Est-ce que c'est une histoire? Parce que moi, quand je dis une histoire, c'est quelque chose qui a un sens. C'est pas une histoire. Comment on va dire? Je n'appellerai pas ça une histoire, j'appellerai ça un drame. Je vis en France. Je compte sur un système que je dis égalitaire. Et je compte sur un système où je dis qu'il y a les droits existent. Et mais en réalité, non. En réalité, non.
My skin is black. My arms are long.
Dans l'ombre des lumières, la construction de la race. Avec Sarga Moussa, Jean-Frédéric Schaub, Sylvia Sébastiani, Catherine Kokri-Vidrovitch, Magali Besson, Beneba Ilboudo et Aurélia Michel. Lecture, Claudia Mongoumou et Alex Fonja.
What do they call me? My name is Aunt Sarah.
Documentaliste, Anne-Lise Signoret.
My name.
Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervan.
My skin is yellow.
Prise de son, Yann Fressy.
My hair is long.
Mixage, Bruno Mourlan. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffie Mariani.
My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My skin is tan. My hair is fine. My hips invite you. My mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. Tough.